J'ai en ma compagnie M. Benjamin Gallet. Bonjour, M. Gallet. Comment allez-vous?
Bonjour, M. Beauregard. Très bien, merci.
Vous êtes un chercheur au Centre d'études des conditions de vie et des besoins de la population au Cégep de Jonquière et vous avez fait une étude assez large sur les effets du confinement sur les résultats scolaires et l'apprentissage.
Oui, tout à fait. C'est une étude, en fait... excusez-moi, je vous en prie, allez-y.
Ben, en fait, je voulais comprendre un peu les paramètres de cette étude-là. Qui visait-elle, l'échantillonnage, ainsi de suite?
Oui, très bien. Donc, c'est une étude, en effet, assez large qu'on a menée à plusieurs reprises pendant la COVID-19, pendant la pandémie. Mais là, aujourd'hui, je vais vous parler particulièrement de sa phase 2, réalisée il y a exactement un an, auprès de 18 cégeps, collèges et 6 centres d'études, ce qui fait qu'on a eu la participation d'environ 8600 étudiants.
Oui, 8600, c'est un échantillon qui en vaut la peine, là.
Oui, très représentatif, je pense, de ce qu'ont vécu l'ensemble des collégiens.
Oui. Et quel était le but? Qu'est-ce qui était mesuré? Qu'est-ce que vous vouliez comprendre avec cette étude?
Bien, dans un premier temps, en fait, on voulait comprendre un peu l'effet justement des différentes modalités d'enseignement, leurs effets sur la satisfaction, la motivation, l'acquisition des connaissances, le stress, etc. On a également évalué la santé mentale des étudiants, donc leur détresse, anxiété, dépression, l'impact de la pandémie aussi sur la perception qu'ils ont d'eux-mêmes.
D'accord.
Ensuite de ça, on a aussi regardé un peu l'utilisation, les modalités des services aux étudiants proposés en fait à ce moment-là où la plupart des cégeps n'ont plus été sur place. Et puis ensuite, des éléments qui pouvaient expliquer l'adaptation de ces jeunes, c'est-à-dire le soutien social, les habitudes de vie, leur consommation, activité physique. Puis on a terminé sur des questions ouvertes qui leur permettaient de s'exprimer aussi bien sur leurs défis que sur les belles surprises quand même que pouvait apporter la pandémie.
Parce qu'évidemment, d'un collège à l'autre, d'un cégep à l'autre, les modalités d'adaptation n'ont pas toujours été égales, mais on peut supposer tout de même qu'il y a comme un fond commun. Il y avait des directives du ministère de l'Éducation là, qui étaient communes à tout le monde.
Tout à fait.
En général, est-ce que l'échantillonnage que vous avez, 8600, c'est quand même beaucoup de gens, mais ici à Canal M, on est assez soucieux des personnes qui vivent en situation de handicap. Et dans ce cadre-là, est-ce qu'il y avait des personnes en situation de handicap dans votre échantillonnage?
Oui, tout à fait. En fait, on a tout de même 38,5% de l'échantillonnage qui se reconnaissaient, en tout cas, exprimant l'idée qu'ils pouvaient avoir un trouble, une difficulté ou une situation de handicap avec un impact sur leur vie quotidienne. C'est comme ça qu'on l'a proposé.
38,5?
Oui, c'est en effet important.
C'est beaucoup, c'est plus du tiers, là.
Oui,
si je sais compter, on est à peu près à 2500, là.
Oui, tout à fait, c'est à peu près ça. Ce qu'il faut comprendre, c'est ça, c'est que quand on évalue une situation de handicap, c'est très difficile. Soit on est très sévère et on demande simplement qui a un diagnostic de quelque chose, soit on est plus inclusif, puis encore une fois, on questionne la personne sur la façon dont elle ressent, elle, vivre un trouble, une difficulté ou un handicap.
D'accord.
C'est sûr qu'il y a des déficiences qui sont acquises très tôt dans l'enfance. C'est plus facile, entre guillemets, de se situer comme étant en situation de handicap, mais pour des difficultés telles que les difficultés d'apprentissage, les troubles de santé mentale, ce sont des choses un petit peu plus parfois subjectives. Puis le diagnostic, il est parfois difficile à obtenir, surtout en période de pandémie. Donc, on ne pouvait pas non plus restreindre seulement ceux qui avaient un diagnostic. Puis inversement, certains ont des diagnostics dont on peut parfois aussi se questionner. Mais oui, ça fait que, on a été très inclusif. On a vraiment un portrait finalement de ce que les jeunes eux-mêmes ressentaient comme étant en situation de handicap.
Oui, parce qu'on peut imaginer que quelqu'un qui était, limite dans une problématique d'anxiété, qui tenait quand même le coup, si je peux dire, dans une situation prévisible, tout d'un coup confronté à plein de nouveautés et de restrictions dues au confinement, peut-être à ce moment-là, ça basculait et la problématique, par exemple, d'anxiété faisait surface, alors que précédemment, elle était gérée avec plus d'aisance. Quel type d'handicap est-ce que... vous avez ouvert la porte à savoir que ça peut être des questions,
ce qu'on appelle
des handicaps invisibles, là, mais il pouvait y en avoir aussi d'autres qui étaient assez faciles à reconnaître.
Tout à fait. Donc, on a demandé, à chaque fois, on proposait une définition puis des exemples hein, pour qu'on soit sûr d'être sur quelque chose de commun avec l'étudiant. Mais troubles de santé mentale. Donc là, justement, il y a des troubles, je dirais, qui sont un peu plus... c'est troubles bipolaires, schizophrénie, ça faisait partie des exemples, c'est quelque chose de plus stable dans le temps, mais on avait aussi ouvert aux exemples tels que troubles anxieux, troubles dépressifs. Donc là, en effet, comme vous disiez très bien, c'est des troubles qui peuvent peut-être arriver, émerger au moment de la pandémie. Ensuite, on avait la déficience neurologique, avec surtout tout ce qu'on sait, TDAH, troubles du spectre de l'autisme, troubles du langage, etc. Les troubles d'apprentissage, donc là, on allait plus sur des exemples précis tels que dyslexie, dysorthographie, dyscalculie. La déficience organique, avec des insuffisances cardiaques, fibrose kystique, etc. Les déficiences physiques, des descriptions également, déficiences visuelles, déficiences auditives. Puis on essaie aussi un autre. On a ensuite traité, je dirais... analyser secondairement uniquement trois catégories qui sont troubles de santé mentale, déficience neurologique et troubles d'apprentissage parce qu'il y avait entre 6 et 22% de l'effectif. Pour les autres, c'était autour de 1, 2.
Oui, donc, ben, 6% en montant, à ce moment-là, votre échantillonnage commençait à être statistiquement plus valable.
Tout à fait.
En fait, la question simple qui... Moi, il y a deux questions simples qui me viennent à l'esprit. La première, c'est est-ce que dans la population étudiantine en général, les accommodements qui ont été imposés par la pandémie ont-ils, est-ce que la qualité de l'enseignement ou de ce qui est acquis, parce que les enseignants font leur possible, la qualité de l'acquis s'est-elle détériorée à cause de la pandémie? Est-ce que nos étudiants sont sortis perdants en général?
Alors, c'est sûr que moi, je ne pourrais pas répondre à cette question d'un point de vue objectif. Par contre, ce que les étudiants en disent, eux, que ce soit de manière globale ou au niveau des étudiants en situation de handicap, c'est qu'en effet, la qualité de l'apprentissage, bien que, ils sont d'accord que la plupart des enseignants ont donné leur maximum et se sont bien adaptés, mais malgré tout, globalement, ils indiquent qu'ils ont eu peur un petit peu de la qualité de leurs apprentissages.
D'accord. Et est-ce que cette constatation-là est aussi vraie dans le 38.2 qui s'auto-déclare en situation d'handicap qu'avec le 61 quelques pourcents qui ne s'est pas auto-déclaré? Est-ce que c'est uniforme ou les étudiants en situation d'handicap semblent avoir été plus pénalisés à ce sujet?
Non, alors étonnamment, par rapport à cela, il n'y a pas de différence majeure. Je pense qu'en fait, l'effet a tellement été important que, quelque part, ça atténue un petit peu l'effet d'être ou non en situation de handicap. Par contre, on a repéré certains éléments, si vous me donnez la possibilité de vous les donner, justement, c'est l'accès au matériel scolaire et aux équipements, qui est moins fréquent dans nos trois groupes d'étudiants en situation de handicap.
Oui.
L'accès à un lieu propice aussi pour pouvoir se concentrer, pour pouvoir réaliser son enseignement a également été démontré comme étant moins fréquent chez ces étudiants-là en situation de handicap. Un point important aussi, c'est le fait d'avoir songé à abandonner davantage de cours pendant cette session que les autres étudiants. Donc ça, je pense qu'en termes d'impact scolaire, en tout cas, je pense que c'est vraiment le chiffre qui nous fait le plus parler, de même que des effets négatifs liés aux résultats scolaires. Énormément, là, je dirais qu'une forte proportion d'étudiants en situation de handicap a montré que ça avait été négatif sur leurs résultats scolaires versus les autres étudiants.
Okay. Alors, il y a un taux d'abandon plus élevé et la moyenne collective tend à être sous ce qui était habituel pour eux ou pour elles précédemment.
Oui, alors là encore, c'est parfois difficile de comparer au niveau, l'ensemble des étudiants trouvent qu'il y a eu des effets négatifs au niveau de leurs résultats. C'est encore donc d'autant plus vrai chez les étudiants en situation de handicap. Pour ce qui est de l'abandon, on n'a pas de chiffres officiels. C'est très difficile à avoir sur les états antérieurs, je parle. Donc, on ne pourra peut-être pas dire qu'il y a eu plus d'abandon. Par contre, les proportions des étudiants qui ont songé à abandonner, ça nous semble supérieur à ce que l'on connaissait avant, encore une fois, sous toute réserve. Un élément important aussi, c'est que les étudiants en situation de handicap ont éprouvé énormément de difficultés à comprendre les attentes des enseignants à l'égard de, à leur égard dans les cours. Donc là encore, d'un point de vue pédagogique, on sait que c'est un facteur important, hein, la prévisibilité, tout ce qui est le travail des plans de cours, ça permet à tous les étudiants de bien s'adapter, mais encore plus aux étudiants en situation de handicap. Donc là, c'est peut-être difficile pour les enseignants de s'adapter comme ça, surtout il y a un an à cette pandémie, mais ça a eu un impact important, je pense, au niveau pédagogique.
Les résultats de votre étude, est-ce que vous avez soumis les résultats au ministère de l'Éducation? Parce que ça me semble quand même être un bagage de connaissances important, là, tout frais. Et malheureusement, on a l'impression que la pandémie n'est pas tout à fait terminée, là. Alors, la situation pourrait se répéter. Alors, que va-t-il arriver des résultats? Est-ce qu'on va pouvoir en tenir compte?
Tout à fait. Écoutez, en fait, le ministère de l'Enseignement supérieur a même, peut-être pas directement comme un appel d'offres, mais c'est eux quand même qui ont financé ce projet parce qu'ils étaient déjà dans une optique de nous soutenir à mieux comprendre la persévérance et la réussite scolaire. Donc finalement, on est financé directement par eux. Donc oui, tous les résultats sont transmis au ministère d'une façon ou d'une autre, et aussi bien les résultats plus globaux que les portraits qu'on est en train de faire. Donc au fur et à mesure, on les alimente sur la compréhension de ce qui s'est passé pour espérer mieux anticiper en effet un éventuel retour à l'enseignement à distance de manière généralisée, comme ça s'est fait il y a un an. Et là, on est en train, je le dis en terminant, on est présentement en train de terminer l'évaluation d'une nouvelle enquête qui est la même, en fait, qui se reproduit là depuis 15 jours. Donc, on aura en fait, entre guillemets, l'effet un an après.
Donc, un regard avec un peu de recul, tout à fait.
Tout à fait.
Monsieur Gallet, je vous remercie beaucoup. Monsieur Benjamin Gallet, vous êtes chercheur au Centre des études des conditions de vie et des besoins de la population au Cégep de Jonquière. Merci, Monsieur Gallet. On espère évidemment que la présentielle dominera l'année 2022. C'est à souhaiter. Je vous remercie.
On espère. Merci. Au revoir.